Le bord congolais avec l'ail rouge.
Bonsoir. Une année après les affrontements entre les Guinéens et les Monzaya à l'Équateur, où en est-on avec le processus de réconciliation entre les deux communautés? Que faut-il pour prévenir et régler les conflits communautaires afin de consolider la paix en RDC? Nos invités dans cette émission sont Céline Schmitt, chargée de relations extérieures au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bonsoir, Madame Schmitt.
Bonsoir.
Rebecca Ibalé, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur. Elle va nous rejoindre dans un tout petit moment. Rigobert Louiseau, spécialiste de la réconciliation à Search for Common Ground. Il va également nous rejoindre dans un court moment. Mais vos réactions nous sont déjà parvenues. Fikiri Saïdi Fati Dozira aussi qui vous. La création d'une commission Paix, Vérité et Réconciliation devrait être établie à l'Équateur pour le dossier Niélé Monzaya, car les gens finissent par oublier ce qu'on leur a dit, mais jamais ce qu'on leur a fait. Gaston de Gadolité à l'Équateur, la pauvreté de la population congolaise est à la base des problèmes entre les communautés. Il faudrait que l'État congolais aide les communautés à résoudre ce problème pour qu'on espère une vraie réconciliation. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-896-58 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapitre.net.
Vous vous souvenez certainement que dans le secteur de Dongo, territoire de Kongo, province de l'Équateur, deux communautés s'étaient disputées des étangs piscicoles et vivaient à couteau tiré. Les Enyele et les Monzaya s'étaient alors affrontés avec armes blanches et armes de guerre à Boyele, localité située à environ 200 km au sud-est de Guémena. Le bilan faisait état de plusieurs morts et blessés. Selon les autorités locales, il s'agissait en fait de la résurgence d'un vieux conflit de près de 60 ans. Une année après, les habitants de Monzaya et Niélé ont fumé le calumet de la paix. Les représentants de ces communautés se sont engagés à véhiculer le message de paix. On écoute un extrait de ce pacte de réconciliation.
Nous, membres des communautés Niélé, groupement le Balatanga d'une part, et Monzaya, groupement Bomboli, d'autre part, conscients de notre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, face aux événements de triste mémoire ayant mis à feu et à sang, non seulement nos deux villages respectifs, mais aussi ont ébranlé les tissus économiques de notre chère province, entraînant le déplacement massif de nos compatriotes. Devant Dieu et devant le peuple, nous avons pris l'engagement solennel de renoncer à la violence, de résoudre désormais nos problèmes par des moyens pacifiques et de vrais en commun pour le développement de notre pays. Ceci étant, il est à noter que Niélé et Monzaya et leurs environs sont aujourd'hui des territoires pour ces conflits. Enfin, nous lançons un appel pathétique tous les fils et toutes les filles du secteur de Dongo, des territoires du Kongo et des districts de Sous-Ubangi devraient, en faveur de la consolidation du présent processus clairement acquis par la construction d'une paix durable, gage de tout développement.
Voilà, en attendant d'avoir les deux autres interlocuteurs, Céline Schmitt, je rappelle que vous êtes chargée de relations extérieures au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Quelle a été la contribution du HCR dans ce processus de réconciliation entre Niélé et Monzaya?
Oui, le processus de réconciliation fait partie intégrante du programme du HCR, du programme de préparation des conditions pour le retour des réfugiés. Donc, comme vous l'avez indiqué, des milliers de personnes ont fui la province de l'Équateur à partir de 2009 pour se réfugier en République du Congo, mais également en République centrafricaine. On a enregistré plus de 115 000 réfugiés congolais de RDC en République du Congo, dans le département d'Alikwala. Lorsque nous avons parlé à ces réfugiés, Plus de 80% d'entre eux nous ont dit oui, nous voulons rentrer chez nous, à condition que la paix soit de retour, à condition que la sécurité soit rétablie. Et pour cela, le processus de réconciliation, de paix, est très très important pour préparer ce retour. Nous avons donc défini un programme avec notre partenaire Search for Common Ground, qui a mis en place des activités de réconciliation entre les communautés dans la province de l'Équateur, des formations pour les leaders communautaires, afin de faciliter, de transformer les conflits et de faciliter la réconciliation entre les deux communautés.
Alors, un conflit de près de 60 ans, hein, vieux de 60 ans, comment s'assurer la sincérité des deux communautés après la signature de ce pacte?
Alors, vous touchez un point très important qui est la durabilité de cette réconciliation. Alors, notre partenaire, Search for Common Ground, a travaillé sur les causes du conflit, a travaillé avec les communautés, a discuté avec eux, leur a les a encouragés à s'asseoir à la même table, à discuter entre eux, et c'est eux ensuite, les communautés elles-mêmes, qui ont décidé de signer ce pacte, qui entre elles se sont entendues, qui se sont réconciliées, qui recommencent à pêcher ensemble. Donc, en fait, l'initiative de la paix doit venir des communautés elles-mêmes. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est consolider ce processus de paix.
Allez-y, je vous en prie.
Continuer à travailler avec elles, c'est ce que continuent à faire les partenaires sur place, en créant maintenant une radio communautaire, en facilitant l'information, en continuant les sessions de réconciliation, en continuant à travailler avec les communautés. Search for Common Ground travaille beaucoup sur le théâtre participatif, justement pour impliquer les communautés, pour faire en sorte que ce processus se consolide et que la paix soit durable. Et c'est cette paix durable qui va favoriser le retour des réfugiés et le retour durable des réfugiés.
Alors vous êtes du HCR. Où en est-on à ce jour avec le retour des réfugiés qui sont au Congo-Brazzaville?
Alors, comme je vous le disais, 115 000 réfugiés congolais sont toujours au Congo-Brazzaville. C'est un grand nombre de personnes, effectivement. Alors, pour vous faire peut-être un historique très très court de ce qui s'est passé depuis le conflit, il y a un accord tripartite qui a été signé entre la RDC, la République du Congo et le HCR en juin de l'année dernière pour définir les principes du rapatriement volontaire des réfugiés et les modalités pratiques de ce retour. Depuis, les différentes parties préparent les conditions de ce retour. Donc, tout d'abord, comme vous le disiez, la réconciliation. Mais également, nous sommes sur place avec d'autres partenaires, nous construisons des abris pour les personnes qui rentrent chez elles. Donc, nous travaillons pour préparer ces conditions. Aujourd'hui, les réfugiés de l'autre côté, beaucoup nous disent encore, nous avons peur, nous avons toujours un peu peur, nous ne savons pas si nous pouvons déjà rentrer. C'est pour ça qu'il est important de leur montrer en fait ce qui se passe en termes de réconciliation. Et des visites vont également être organisées maintenant de l'autre côté, ce qu'on appelle des visites Go and See et Come and Tell. Donc c'est-à-dire Go and See, les réfugiés vont pouvoir venir ici voir ce qui a été fait, dormir dans leur village,
pour les mettre en confiance,
constater voilà la situation sur place. Come and Tell, c'est-à-dire le HCR ici avec les autorités d'ici vont aller de l'autre côté en République du Congo pour aller expliquer aux réfugiés quelles sont les conditions dans leur village d'origine.
Madame la ministre Rebecca Ebalé, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur. Je vous aborde directement avec cette question également de Jean-François Ngando de Mbandaka à l'Équateur. Justice, paix, vérité vont de pair. Maintenant que la guerre est finie entre Enyele et Monzaya, est-ce que le gouvernement est en mesure de nous donner la vraie cause de cette guerre?
Alors, le point de vue du gouvernement par rapport à cette question va être le même qu'il a toujours été donné dès le début de ces conflits. Et donc, rien n'a changé. Ce sont des conflits qui sont nés suite à une dispute qui a commencé par des gens des deux localités de Monzaya et Enyele. Et donc, de cette dispute-là, des étangs, des poissons, qui sont nés ces conflits-là dans les districts de Kidoubangui. Et donc, on sait que dans la procédure ou dans les processus, il y a eu beaucoup de récupérations, il y a eu beaucoup de manœuvres pour que l'on en arrive à cette situation que nous avions déplorée qui a pris des allures d'une guerre. Mais parlant de la genèse, l'histoire dont les conflits a commencé par une dispute entre les jeunes gens ou disons des populations vivant de deux localités, Monzaya et Emile. Nous sommes vers les années 2008 et 2009.
Alors, il s'agit simplement d'un problème, tout est parti d'un problème des temps. Maintenant, il y a un processus de réconciliation, mais Madame la Ministre, quelle est la contribution du gouvernement provincial dans ce processus de paix?
Alors, le gouvernement de la province de l'Équateur, par les biais, bien évidemment, de la communauté internationale, notamment la MONUSCO, dans sa section des affaires civiles, et aussi les HCR, parce que ce sont des institutions internationales, mais qui appuient la démarche des institutions nationales. Et donc, par les biais de la MONUSCO, les gouverneurs de province, au mois de mars dernier, s'étaient rendus dans la localité des Mélé, juste pour suivre, pour donner le signal fort des arrêts de ces conflits-là de la part du gouvernement central. Donc, il est allé profitant de la création des comités dont la représentante du HCR a évoqué, donc des comités qui sont créés pour justement essayer de travailler et ramener la paix définitivement dans cette région-là touchée par ces événements appelés communément événements des Vénélé. Donc le gouverneur personnellement a accompagné la naissance, n'est-ce pas, ou a initié, a été à la genèse de ces comités-là qui sont nés justement pour suivre le rétablissement de la paix dans cette région-là. Nous ne sommes pas seulement limités là-bas. Vous allez vous souvenir, messieurs les journalistes, que juste au lendemain de ces conflits, le gouvernement central, présidé par le chef de l'État, son excellence Kabila Kabangé, tous étaient ici en Mbandaka et il avait présidé une grande réunion de sécurité à l'issue de laquelle il était convenu de l'envoi d'un commando ou du renforcement des mesures de sécurité dans toute cette région-là. Et je pense que c'est chose qui a été faite. Donc, dans les mois qui avaient suivi, nous avions observé, et vous-même aussi à la presse, vous en aviez parlé, qu'il y avait un envoi assez significatif à des éléments de sécurité. C'était justement pour aller renforcer ou précéder tout le travail que ces comités qui sont mis en place et sont en train de faire aujourd'hui. Et donc, activement, la province de l'Équateur a participé par la sécurité et par des tables rondes que nous avions organisées avec les autorités locales. Nous les avions appelés à observer une discipline ou bien à observer à garder une communication, s'il faut le dire simplement, avec le mandaka qui représente le siège des institutions. Alors, c'est cette démarche-là qui nous a permis, nous, d'avoir un suivi assez restreint avec tout ce qui se passe dans la région qui a été touchée. Et donc, présentement, nous sommes en train de suivre tous ces processus-là et avec ce que le HCR est en train de faire, collégialement avec la société civile locale et avec les autres ONG, nous sommes en train de reconnaître les efforts de tout le monde et donc par les biais du gouvernement provincial et aussi par la MONUSCO.
Madame la ministre, en un mot, pouvez-vous confirmer qu'à ce jour, la paix et la sécurité sont réellement revenus dans cette partie du pays?
Moi, je peux confirmer que la sécurité est revenue dans ces coins-là de notre pays. En fait, que les autorités internationales, et que je prends en témoin notamment les HCR et la MONUSCO, avec qui nous avions planifié beaucoup de missions, de reconnaissances, beaucoup de voyages même dans la localité de Nyele ou de Monzaya, Dongo. Ça n'a pas été possible, ça n'a pas été faisable pratiquement. Nous étions, c'est vrai, un peu, comment j'étais bien, limités sécuritairement. Et nous avions demandé de l'aide de la communauté internationale, merci, la même communauté internationale qui nous a conduit aujourd'hui sur ce terrain-là n'était pas capable de nous offrir toutes les conditions d'aide de sécurité, mais voilà qu'aujourd'hui, par le même biais de la communauté internationale, nous sommes arrivés sur place. On a créé des ateliers de réconciliation. Pour nous, à notre point de vue, ça veut dire que ce sont là des preuves aussi éloquentes qui démontrent qu'aujourd'hui, il y a la réconciliation. Et pas plus tard qu'avant de commencer l'émission, je venais de suivre là l'acte d'engagement lu par une autorité locale. Donc, l'ensemble de tous ces éléments-là peuvent nous encourager à... On va dire qu'il y a une faute définitive, sinon on n'aurait pas pu créer tous ces comités-là. Mais nous pouvons dire qu'il y a aujourd'hui un esprit de paix, il y a aujourd'hui un esprit de pardon qui s'est installé, parce qu'il y a eu quand même des retours. Je pense que la représentante des HPA qui est sur le plateau pourra me compléter.
Excusez-moi, j'ai un peu perdu la voix. Merci Madame la Ministre, nous vous gardons tout au long de cette émission. Rigobert Louise, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Voilà, vous êtes spécialiste de la réconciliation à Search for Common Ground. Vous avez également participé à ce processus de réconciliation entre Enyele et Monzaya. Quelle a été votre contribution particulièrement?
Merci de la question. Notre participation, notre contribution de manière particulière, c'est-à-dire que nous avons été la structure qui avait fait l'analyse de ces conflits-là, et la structure qui a même proposé après cette analyse profonde et qui nous a amené à déceler les vraies causes et pour lesquelles les partis s'est battu, mais aussi ça nous a permis de définir l'approche qui nous permettait d'aborder de manière efficace ces conflits. Et donc, nous, à ces jours, nous pouvons dire que nous avons été même au centre de ces processus-là, parce que nous avons fait l'analyse, nous avons proposé des activités, des actions qui ont été menées sur terrain, mais aussi nous avons accompagné avec nos approches méthodologiques, nos manières de faire. Donc, nous avons accompagné ces processus, nous avons fait avec les différentes communautés à conflit jusqu'à ces jours. C'est-à-dire l'analyse, toutes les actions dont on a cité, ça a été conçu et proposé par cette recommandation.
Alors concrètement, quelles sont les activités ou cette approche que vous avez menée pour réconcilier les deux communautés?
La première chose, nous avons fait avec les communautés, nous avons identifié les problèmes clés, les problèmes majeurs sans lesquels les communautés ne pouvaient cohabiter ensemble. La deuxième des choses, nous avons essayé de créer la communication entre ces deux communautés pour qu'ils puissent améliorer leurs relations. Et par la suite, nous avons organisé des types la réconciliation traditionnelle. Donc, nous avons organisé la pré-retraite. Avant la pré-retraite, nous avons organisé un séjour villageois qui nous a permis d'être en contact direct avec les deux communautés, Enyele et Monzaya, pour savoir les vraies raisons qui faisaient qu'ils ne pouvaient plus se parler, ni partager, ni se visiter. Et après ces séjours villageois, nous avons organisé une pré-retraite à Bokonzi qui nous a permis d'avoir les affaires décisives de ces deux communautés. Et nous avons travaillé avec eux, et c'est avec eux qu'ils ont décidé comment la suite du processus sera. Et ce qui nous amènera à organiser la réconciliation traditionnelle en Monzaya, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens et la tradition, les rituels qui étaient un préalable sans lesquels les deux communautés ne pouvaient se rencontrer. Avec notre approche méthodologique, nous sommes quand même arrivés à percer cette barrière qui était entre ces deux communautés, et cela nous a permis que les deux communautés se retrouvent pour la première fois à Enyele, à Monzaya, où même l'équipe de l'évaluation est venue participer à l'activité de réconciliation traditionnelle tenue à Monzaya. Et après ça, nous avons fait l'activité de renforcement des capacités des acteurs décisifs de Enyele Monzaya. Ça, c'est maintenant à Enyele. Et la dernière activité pour nous, c'était le festival de paix et de réconciliation qui a servi de cadre pour le renouvellement du pacte de non-agression mutuelle entre les deux communautés. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que la communauté Enyele et Monzaya ont commencé une fois de plus à écoper les poissons ensemble et ils se visitent mutuellement Et donc, nous avons fait un grand travail de fond. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler de la vraie réconciliation. Tout ce qu'on peut parler, c'est parce que nous sommes allés de l'analyse jusqu'à la concrétisation des activités que nous avons pensé nécessaires pour approcher ces deux communautés de manière durable.
Alors, c'est presque la même question que j'ai posée à Céline suite du HCR en début d'émission. Un conflit vieux de 60 ans, il y a un processus de réconciliation qui est lancé. Comment vous assurez de la sincérité des deux parties?
Il y a des choses. Nous, on n'a pas utilisé un système basé sur l'autorité. Donc, il n'y a rien que nous avons fait pour convaincre ces deux communautés. Et donc, c'est notre manière de faire qui les a amenés à se retrouver une fois depuis 5 ans. Donc, ces deux communautés ne pouvaient pas se rencontrer. Et depuis 2 ans, il y avait un conflit violent entre ces deux communautés. Et donc, nous avons essayé d'améliorer les relations entre ces deux parties sont parties. La deuxième des choses, donc, nous sommes arrivés à ce que ces deux parties sont arrivées, tant soit peu, à arriver à des résultats qui leur permettent de satisfaire leurs besoins ou leurs motivations ou intérêts qui se battaient. Et la troisième des choses, il y a eu des ressources nécessaires qui ont été mises à notre disposition par les HCR, par la NED et par la MONUSCO pour nous permettre de les résoudre. Et la durabilité de ces processus, c'est parce que nous sommes en train d'aider à ce qu'il n'y ait pas de risque de réapparition de ces disputes entre ces deux communautés. Et c'est la raison pour laquelle même j'ai été voir hier le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur avec qui j'ai échangé avec certaines questions qui restent entières pour qu'il puisse intervenir personnellement, pour que le gouvernement central puisse s'impliquer pour consolider les acquis de ce processus de réconciliation. Et donc pour moi c'est sincère parce que ce qui s'est fait n'avait jamais été fait depuis 60 ans, depuis 40 ans, et merci. Donc c'est eux-mêmes qui ont décidé, et donc là, il n'y a pas d'autre chercher la sincérité, si c'est pas peut-être vouloir. Donc, pour moi, c'est sincère jusque-là. Donc, ça nécessite seulement que ces processus soient consolidés, accompagnés par le gouvernement. Merci. Et d'autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui interviennent dans les secteurs dans lesquels nous sommes, on ne peut pas intervenir parce qu'ils ont besoin de tout. Parce qu'ils avaient perdu tout, voilà.
À l'issue du pacte de réconciliation entre les Génélés et les Monzaya, certains membres de ces communautés ont réagi, ils saluent cette réconciliation et remercient les partenaires et les autorités locales pour leur implication. On les écoute, ils s'expriment en lingala.
Nakati na bisona inyele na moni gunde ko zungi pinga ya sola, o na matia oyo santre kule apisa kibiso, na moni ti zungi si gunde ko ya biso ya sola nakati ya biso ya Monzaya na inyele. Soki bayoki sango oyo tikomi bomoko na enyele tikopesa bango mposa ya kozonga na mboka mpinga
emekani bien na ndenge mateya ya centre ekole epesi biso nakaiki tokomi deja na bomoko
mpo na ngai namoni yango emekani kitoko mpinga mpe kobabwa kosalema bopo ekambo yango eza ya lisuki ndenge guverner alobiki ezobanda koloba ndisi mpo na ngai namoni eza bien meta mosusu balobi bandimite oyo eza bien toki ya koloba ndisi metango bakokoma kuna ekokoma subaba na suku owela na ilo ko tuzu banki yango kaya ngwana mpo na ngai namoni bus bakende na bakonzi ya lobi ya leta bakeya balakisa te monzaya bopepa bino bakenya bopepa mpo susu likambo wana ekwela suki babunda bawela te
tosepeli mingi toza siko na boyokani makambo mosusu ya mabe ya kowela na eza lisusu te tosenga epana bandeko oyo baza na ngambo bazonga na mboka na biso deja kimi kwasi na mboka na biso totonga mboka na biso tosepeli mingi na ndenge papa guverner na ye atie kimia kati na biso do bomoko ezongi kati na biso do tosepeli tosangamana na bandeko na biso ya monzaya topepa mai wana mpo esunga bana na biso mpo tofutela bango kelasi matata mpenza nde namoni ekozala mpenza te mpo te deja kimia bomoko deja ezongi na kati na biso do koyela na ekozala lisusu te.
Céline, Smith, on vient de suivre satisfaction des Génélés et Monzaya, la population s'est dit satisfaite. Mais qu'est-ce qu'il reste à faire pour consolider cette paix du côté du HCR?
Alors, du côté du HCR, comme vous le disiez, nous sommes tout d'abord à l'écoute des réfugiés, puisque le retour des réfugiés est volontaire. Certains se disent encore inquiets, donc nous allons mener des activités pour les informer réellement de ce qui se passe ici, les visites dont je vous ai parlé. Également, nous devons préparer le terrain pour leur retour, donc tout ce qui est logistique, préparer toutes les conditions logistiques pour le retour. Nous avons commandé des baleinières pour assurer leur transport, mettre en place des centres de transit. Nous travaillons également avec des partenaires sur place pour construire des abris pour les personnes qui rentrent, pour qu'elles puissent avoir une maison. Mais au-delà de ça, ce que nous faisons également, c'est que nous appelons la communauté internationale, les autres acteurs, et notamment les acteurs de développement, à venir nous rejoindre, à venir travailler sur place avec nous, avec les autorités, pour également permettre le développement de la province de l'Équateur, permettre le rétablissement ou la construction d'infrastructures sociales de base, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, pour que justement les personnes qui rentrent puissent avoir accès à ces différents services de base, mais aussi pour que le retour soit durable. Parce que comme on l'a entendu dans les différentes interventions, la fuite a été créée par des conflits sur l'exploitation des temps sèches. Si les personnes ont d'autres moyens pour subvenir à leurs besoins sur place, on peut éviter en fait ces nouveaux conflits. Donc c'est pour ça que nous appelons aussi d'autres acteurs à venir nous rejoindre, à venir travailler en fait pour assurer que ce retour soit volontaire.
Alors avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, quelles leçons peut-on tirer de cet épisode entre Inélé et Monzaya Céline Sérégine?
Alors, je pense à 1000 personnes non plus. Donc comme je vous le disais, effectivement, ces conflits qui ont eu lieu sur place ont créé la fuite de nombreuses personnes, des exactions, des violations des droits de l'homme. C'est la deuxième fois déjà que ces personnes ont fui en République du Congo. Le HCR avait rapatrié plus de 50 000 personnes entre 2005 et 2008. Donc ces personnes sont rentrées peut-être 2 ans et ont fui à nouveau et ont fui. En fait, ils sont beaucoup plus nombreux ceux qui ont fui. Donc la leçon à tirer, c'est que il faut assurer que le retour de ces personnes soit durable. Et c'est pour ça effectivement qu'il y a un travail de fond à faire sur la réconciliation qui a commencé. Le conflit a été débloqué, il faut maintenant consolider les acquis. Il y a un travail à faire aussi pour maintenir la population sur place, éviter de nouveaux conflits. Donc comme je vous le disais, mettre en place peut-être des activités génératrices de revenus autres que la pêche pour permettre aux personnes de subvenir à leurs besoins par d'autres moyens et éviter que de nouveaux conflits aient lieu à cause des droits de pêche.
Madame la ministre Rebecca Ebalé, je vous demande une très brève réponse, c'est pratiquement la même question. Quelles leçons on peut tirer de cet épisode? Brièvement, je vous en prie.
Eh bien, la leçon, c'est que nous sommes en train, là, d'assister à un retour de la paix, effectivement, mais nous devons plutôt, à mon avis, parler de toutes les conséquences aujourd'hui que nous avions enregistrées, malheureusement, suite à cette situation de conflit. Nous, ici, à l'exécutif Pichel, nous avions connu beaucoup de problèmes pour arriver, à titre d'exemple, à organiser les réclamés d'État, par exemple, à aider aussi au retour pacifique des réfugiés qui sont de l'autre côté. Vous avez suivi une femme qui a dit qu'elle a beaucoup aimé l'appel lancé par le gouverneur. C'est vrai, les conséquences sont diverses, mais je voudrais plutôt m'attarder sur ce que le HCR a dit. Les conséquences sont là, mais si le HCR fait mieux, il va nous aider, cette institution, à ramener rapidement les populations. Parce qu'il contient les conséquences, je l'ai dit, monsieur le journaliste, à notre humble avis, nous avance pratiquement pas vraiment rapidement. Je voudrais plutôt profiter de ce travail que le HCR est en train de faire pour lui demander de nous aider à ramener un peu plus rapidement nos populations, parce qu'on est en train de faire les processus d'enrôlement pour les élections dans la province de l'Équateur. Et vous savez que les élections appellent toujours à une nouvelle vie communautaire au sein des populations.
Donc,
les HCR peuvent nous aider à ramener rapidement les populations. Ça va être en tout cas bénéfique pour nous, parce que nous avons besoin que tous les enfants de l'Équateur puissent bénéficier de ces processus d'enrôlement pour que finalement tout le monde qui a droit ait effectivement accès au processus électoral, notamment à l'enrôlement qui se déroule présentement dans la province de l'Équateur.
Merci Madame la Ministre. J'ai Robert Louiseau, vous également, quelles leçons tirées de cet épisode de Yé de Monzaïa?
La leçon que j'ai tirée, je me dis que il y a jamais eu un conflit qui ne s'est pas trouvé une issue favorable si on s'y met avec professionnalisme et on met tout son art en place et on y travaille avec les concernés. Et donc, c'est possible de résoudre toutes sortes de conflits. Et donc, les conflits qu'on retrouve ça et là en République démocratique du Congo, des sorties harmonieuses si on prend son temps à analyser, à proposer des activités de manière professionnelle. Donc voilà la leçon qui est tirée ici. Depuis 60 ans, les gens se sont tirés d'ici, il y avait un conflit et qu'aujourd'hui, grâce au génie des fêtes sur Common Ground, nous sommes arrivés à réconcilier. C'est de manière claire, donc tout est possible, quoi.
Voilà, puisque vous parlez de votre conflit à travers la RDC, que faut-il pour les prévenir afin de consolider la paix en RDC? Au Kasaï oriental, la localité de Bacha Ilunga, dans le territoire de Kabinda, s'est vidée de sa population la semaine passée. À la base, une incursion de leurs voisins de Nzaji du territoire de Ngandajika, un conflit foncier oppose depuis longtemps ces deux localités distantes d'environ 20 km. Le bilan provisoire de cette incursion faisait état de 4 morts et 17 maisons incendiées du côté de Bacha Ilunga. Chris Mokande pour les détails.
Le chef du groupement de Boudia, dont dépend la localité de Bacha Ilunga, affirme que des personnes venues de la localité d'Nzaji ont mené leur attaque par surprise. Il est 23h quand le village est réveillé par des tirs de coups de feu. Sans tarder, des torches frôlent la paille des maisons, on crie au feu et c'est la débandade. Dans la foulée, on dénombre 4 morts et 2 blessés. Les rescapés se dirigent vers la forêt. La même source rapporte qu'il y a 4 jours, des ouvriers de cantonnage manuel originaires de Bacha Ilunga ont été attaqués sur la route de Moyengue, où ils s'étaient rendus pour raison de service. L'un des deux a été rattrapé, conduit au village, a bien agi et est porté disparu jusque-là. Le chef de groupement de Boudia croit qu'il a été égorgé, car cela se passe souvent ainsi, ajoute-t-il. La société civile de Kabinda, qui confirme l'information de l'attaque de la localité de Bacha Ilunga, exprime son inquiétude principalement pour les femmes et les enfants qui se retrouvent sans abri à la merci des bestioles et des intempéries. Il est ménagé de voir les autorités trouver une solution à cette tension qui n'a que très durée. On signale le retour au village de quelques hommes, leur famille étant toujours dans la forêt. Ils viennent sauver ce qui reste à sauver. Bougimaï, Chris Mokande, Radio Kapi.
Merci Chris Mokande. Notez qu'à ce jour, le calme est revenu dans les localités de Nzaji et Bacha Ilunga. Plusieurs dispositions ont été prises par le ministère provincial de l'Intérieur pour le maintien de l'ordre dans ce secteur. Céline Schmidt, vous êtes chargé de relations extérieures au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Cette illustration que nous venons de suivre d'un conflit communautaire, il y en a beaucoup à travers la RDC. Que faut-il pour prévenir ce genre de conflit?
Alors, ce que je peux vous dire, dans le cadre des programmes en fait, du HCR, quand nous préparons le retour des réfugiés par exemple, la réconciliation est toujours partie intégrante du travail du HCR sur place. Parce qu'effectivement, avant de pouvoir organiser un retour de réfugiés, il faut que la paix soit revenue, il faut que les communautés qui se sont peut-être affrontées puissent coexister, soient d'accord de vivre ensemble. Et donc, la réconciliation fait partie intégrante de tous nos programmes de retour des réfugiés. Alors, je peux vous donner des exemples, par exemple, en RDC, de ce qui est fait. Par exemple, au Sud Kivu, nous soutenons des comités de médiation et de conciliation, justement pour assurer une résolution pacifique des conflits qui pourraient apparaître dans le cadre des retours des réfugiés, pour assurer que cela se fasse dans la paix, dans la cohésion. Nous basons tous nos projets sur ce qu'on appelle une approche communautaire, c'est-à-dire associant à la fois les réfugiés qui rentrent, mais également la population qui est restée sur place. Donc les projets d'abri bénéficient à la fois aux rapatriés, mais également à la population qui est sur place, tout comme les écoles qui peuvent être construites, ou les centres de santé qui sont réhabilités, ou les activités génératrices de revenus. Ensuite, de même, si je peux me permettre, au Nord Kivu aussi, nous travaillons avec un partenaire UN Habitat, où nous travaillons sur la résolution des conflits fonciers. C'est également très très important dans le cadre des retours, la résolution des conflits fonciers. Mais également, nous avons un projet dans le cadre du STAREC de création de comités locaux de conciliation au Nord Kivu, justement pour préparer également le retour des réfugiés dans cette province.
Il y a Edmond qui nous écrit de Mbandaka, l'Équateur, qui dit pour mettre fin et consolider la paix, la paix en RDC, il faut que la puissance publique se dote des mécanismes fiables de l'armée en assurant à cette dernière une colossale rémunération pour son engagement envers son État, et ensuite tolérer l'esprit de dialogue comme mode de consolidation de la paix et de règlement des conflits dans notre pays. Bref, renonçons à la force pour appeler le dialogue. Brève réaction, Céline Schmitt. Il demande qu'on renforce le dialogue.
Oui, effectivement, le dialogue est quelque chose...
Est-ce que le dialogue seul suffit?
Le dialogue est une chose très très importante. On l'a vu dans le cadre du processus de réconciliation en Équateur, le dialogue entre les communautés a été la base de la réconciliation. Les personnes se sont assises ensemble, à la même table, ont discuté. L'échange d'informations est très très important également. C'est exactement la même chose dans les provinces de l'Est. Il faut effectivement favoriser le dialogue, favoriser le fait que les gens se rencontrent, puissent discuter, puissent exprimer leurs problèmes, leurs difficultés et puissent résoudre cela ensemble.
Madame Rebecca Ibalé, je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement provincial de l'Équateur. Prenons cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur pour vous.
Jean-Bernard Mideko, Mbandaka, province de l'Équateur. Ce qu'il faut faire, c'est faire régner la justice, éviter les frustrations, créer les conditions permettant les communautés à travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Sinon, elles passeront leur temps à se discuter les peu de ressources disponibles. En définitive, nous pouvons dire qu'il faut créer des conditions permettant aux communautés de combattre la pauvreté, qui est la source principale de ces conflits.
Madame la ministre, réaction, cet auditeur pense que combattre la pauvreté pourrait être une bonne façon de prévenir les conflits communautaires.
Oui, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort, mais je dirais que ça c'est à long terme. Mais à court terme, moi je voudrais plutôt soutenir les amis qui sont en train d'avancer ou de dire que privilégier un esprit de dialogue, que moi je dirais dialogue social entre ces populations-là, nous est aussi d'une grande utilité à ne pas négliger. Parce que je suis en train de dire à cet auditeur-là qui est appelé, que lorsque vous conversez avec ces jeunes gens-là qui ont commencé ces conflits, mais vous allez vous rendre compte que c'est une petite dispute, des petites discussions qui naissent entre des jeunes gens, ça n'a rien à voir avec la crise qui est d'ailleurs généralisée. Ce n'est pas, j'ai toujours dit, la pauvreté de la province de l'Équateur, on ne doit pas particulariser ça. La province de l'Équateur ne vit pas une situation spécifique. La crise est générale, elle est nationale, voire même internationale. Et donc, moi, je privilégie plus la création des cadres de dialogue social, tel que la représentante de l'HCR a dit, et puis l'autre intervenant, un peu plus avant, parce que nous croyons que s'il y a une forte communication, une bonne communication qui est établie entre les populations, je vous assure, monsieur le journaliste, que nous serons épargnés de beaucoup de problèmes qui ne nécessitent pas d'atteindre aussi des niveaux nationaux. Je prends ce même exemple. Vous avez suivi toutes ces populations qui ont intervenu pour dire que toutes ces parties de petits conflits, nous, on n'avait même pas cru que ça allait atteindre des dimensions desquelles nous sommes en train de parler aujourd'hui. Donc, c'est à long terme. Le gouvernement provincial est en train de travailler pour chercher à améliorer les conditions de vie des populations, mais on devra commencer par soutenir d'abord les comités qui sont créés sur place pour écouter, pour échanger et communiquer entre autorités locales et les populations. C'est à partir, c'est sur base des éléments qui vont sortir de ces comités-là que nous, gouvernement, on saurait comment nous battre tant bien que mal pour essayer d'arriver à améliorer tant soit peu les conditions de vie de nos populations. Monsieur le journaliste, c'est que nous ne devons pas également oublier et qu'on devra également éviter
tout ce qui est récupération politicienne. Parce que cet auditeur-là ne va pas me dire que ce sont ces mêmes jeunes gens-là qui se sont disputés les temps de poisson. Après, nous n'avons pas
mon père.
Ce sont ces mêmes gens que nous avons vus ici en Bandata.
Merci, Madame la Ministre. Voilà, on a compris, Madame la Ministre, que vous insistez sur le fait d'éviter des récupérations politiques. Rigobert Luizot, spécialiste de la réconciliation à Seul Sofort Command Grande, est-ce que vous partagez ce point de vue pour prévenir les conflits en RDC?
Merci bien. Je pense que pour prévenir les conflits en RDC, comme on l'a dit, il faut savoir que l'intolérance, il faut qu'il fait qu'on en arrive à ce niveau-ci, que les gouvernements à tous les niveaux ne jouent pas convenablement son rôle, parce que c'est ça aussi. Donc, cela nous appelle à une réforme en profondeur des institutions, parce que à la base, si vous analysez très très bien, c'est dans beaucoup de cas qu'il y a jugement mal rendu, tout ça, aussi l'ignorance de la population. Et donc moi, je pense que c'est dans la majeure partie, c'est ça incombe la responsabilité de l'État qui doit s'assumer pour rassurer tout le monde. Parce que au fait, dans la plus grande partie, c'est des conflits sociaux. Et quand on parle des conflits sociaux, on voit directement que c'est des conflits économiques. Et donc, c'est sur des questions substantielles que les gens se battent et des conflits d'autodétermination. Donc, il y a des là qui pensent qu'ils sont des autochtones et ils pensent que les autres, c'est un peuple migratoire. C'est ça, à la base, presque partout en RDC, à la base, donc, l'État fait son travail et on doit vulgariser les différents textes qui montre qu'on ne doit pas discriminer, qu'on est tous, qu'on a le même droit devant la loi, tout ça, et même la distribution des ressources est inéquitable et à la base de beaucoup de.
Voilà, je vous signale qu'il nous reste moins de 3 minutes pour terminer cette émission. Rigobert Luizot, il y a Kairi Matembera de Kalimio Katanga qui dit « Mettre fin à des conflits de tout genre devrait être notre culture, quel que soit à son prix. Mais ne doit-on pas plutôt mettre l'accent sur l'éducation et inscrire par exemple la culture de la paix à l'école déjà dès le bas âge ?» Rigobert Luizot, vous nous entendez?
Oui, allô?
Voilà, je vous demandais si on ne devrait pas insister dans le volet éducatif sur la culture de la paix à l'école, par exemple, en le mettant dans le programme scolaire.
Tout à fait, je pense que dans beaucoup de cas, même nous-mêmes, quand nous menons nos activités, pour avoir une large auditoire, nous les faisons toujours dans les écoles. Je pense que ça serait une approche qui serait la bien. Et le bas âge, l'enfant va grandir avec des notions de tolérance, ils savent comment ils peuvent résoudre leurs problèmes par les dialogues et non par la violence. Donc je pense que ça serait quelque chose qui serait soutenu. Je pense que plusieurs fois, on a proposé cette approche au gouvernement, mais bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils y pensent, mais je pense que c'est important. Parce que ça vous permet que toutes les familles soient au courant de ce qui se passe, qu'est-ce que la culture de la paix. Parce qu'on n'a pas la meilleure façon de le faire qui est dans des écoles.
Pouvez-vous déjà conclure en un mot parce que l'émission va toucher à sa fin?
En un mot, je remercie tous ceux-là de manière ou d'une autre qui ont contribué à ce que nous puissions arriver à ces résultats aujourd'hui. Donc, mon sentiment de gratitude. Et donc, nous leur demandons de s'inscrire de manière positive pour la consolidation de ces processus de réconciliation en Équateur.
Merci. C'est l'issue de conclusion.
Oui, comme nous le voyons, effectivement, le processus de réconciliation est en cours. Nous pouvons féliciter pour cela tous les partenaires, effectivement, qui sont intervenus pour cela. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est consolider ce processus pour permettre effectivement un retour durable des réfugiés.
Merci. Madame la ministre Rebecca Ebalé, juste un mot pour conclure.
Alors, le dernier mot va être celui de soutenir l'action des comités d'écoute ou des dialogues sociaux qui est créé sur place pour permettre les dialogues faciles entre les deux communautés. Et nous, autorités, nous souhaitons aussi, je voudrais me répéter, qu'il n'y ait pas une action ou des récupérations politiques. Je souhaite la récupération politique parce que je sais que l'on n'est
pas. Merci, Madame la ministre. Merci. Nous sommes obligés de vous interrompre. Cette émission est terminée. Merci à Kevin Kouté, Dieudonné Angassa, Samuel Kachak, Télé-Coupé Lamondo, pour tout le programme sur la radio de la paix.